Merci d'être avec nous sur RFI à Paris. Il est 3h.
Mathis Limano.
Éviter l'escalade régionale à tout prix, l'avertissement lancé par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, alors que l'AFC M23 et les troupes rwandaises continuent leur progression en RDC, des combattants signalés à Bukavu, capitale du Sud-Kivu, à suivre le témoignage d'un Bukavien terré chez lui. Dans le reste de l'actualité, ce sixième échange d'otages et de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas, 369 prisonniers palestiniens ont pu quitter leur prison ce samedi en échange de la libération de 3 captifs retenus à Gaza. On est à Jérusalem, sur la place des otages, dans le journal. Et puis en Serbie, le gouvernement continue de faire l'autruche face au mouvement anticorruption. En République démocratique du Congo, l'AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, continue son avancée au sud Kivu. La situation à Bukavu, capitale de la province, est très floue. Bien qu'ils n'en revendiquent pas la prise, les rebelles ont été signalés dans la ville. Une information confirmée par une source gouvernementale congolaise. Pour beaucoup d'habitants de Bukavu, c'est l'anxiété qui dominait hier samedi, sans certitude sur l'évolution de la situation. Écoutez le témoignage d'un habitant du centre-ville. Il assure n'avoir assisté à aucune violence, mais avoir entendu toute la journée des tirs sporadiques, des coups de balle, dit-il.
Il y avait des coups de balle, mais on a appris au courant de la journée que c'était plutôt des jeunes qui avaient pu prendre des armes et qui se sont mis à tirer afin de pouvoir faciliter des pillages pour eux-mêmes. Je récite des témoignages de gens qui ont vu leur boutique pillée. Donc, jusqu'à maintenant, à 23h, on ressent encore quelques coups de balle. Donc, on espère que lorsque l'ordre pourra intervenir, que cette situation pourra cesser. Heureusement que l'électricité fonctionne, l'eau courante aussi fonctionne. On a accès au réseau téléphonique, même à la communication 4G, même s'il y a des perturbations. C'est vrai qu'on s'était préparé, on avait acheté des piles. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'interruption du courant. On avait fait aussi des provisions d'eau. On prétend que les forces de l'ordre régulière, les FARDC, seraient en train de rentrer et que, bon, les forces du M23 sont en train de quitter. Mais d'autres ont dit que ça serait une digression. Il est difficile pour le moment de tirer tout ça au clair.
Un témoignage de cet habitant de Bukavu recueilli par Amélie Tulé. Du côté de la communauté internationale, beaucoup de réactions d'inquiétude après cette nouvelle offensive. Ce samedi, à l'ouverture du sommet de l'Union africaine, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la fin des combats afin d'éviter une escalade régionale. Le sommet de l'UA, qui se tient tout le week-end dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, et qui tient son nouveau président de la commission, le chef de la diplomatie de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, a été élu hier, samedi, pour occuper la plus haute fonction de l'organisation qui compte 55 États membres. À ses côtés, c'est la diplomate algérienne Selma Haddadi qui a été désignée au poste de vice-présidente. Parmi les dossiers prioritaires de la commission, le conflit dans l'est de la RDC, mais aussi la guerre au Soudan. Et puis avant de refermer cette page africaine, un nouvel effondrement sur le site d'une mine d'or au Mali. 48 personnes sont décédées à la suite d'un éboulement sur ce site d'orpaillage illégal dans l'ouest du pays. Les victimes sont pour la plupart des jeunes femmes, précise une source policière. Le Hamas a, comme prévu, libéré ce samedi matin 3 nouveaux otages à Gaza. 3 hommes, tous binationaux, qui avaient été enlevés dans un kibboutz le 7 octobre. Ils ont recouvré la liberté après plus de 16 mois de captivité. Leur remise en liberté découle de l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il y a un mois, 19 otages israéliens ou binationaux ont été libérés. Ce samedi matin à Tel Aviv, les proches des otages étaient de nouveau au rendez-vous pour célébrer ces libérations. Il y avait beaucoup d'émotions et aussi encore de l'angoisse sur la fameuse place des otages. Dans la foule, Marcia, au micro de notre envoyé spécial, Abla Jonaidi.
This week was a depression, anguish, desperate week.
Cette semaine a été très déprimante, angoissante, désespérante. Nous avions tous très très peur. On pensait que nos otages étaient au minimum alimentés, mais quand on a vu la semaine dernière qu'ils étaient quasi mourants, on a compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre.
We understood that there is no time. So a panic became the right.
Tout le monde a paniqué. Moi, j'avais la migraine et je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va se passer pour nous si les autres ne sont pas sauvés ce samedi? Nous n'avons plus le temps.
I was like, oh my God, what will happen with us if this won't solve this Saturday? We don't have time anymore.
Et en échange de ces nouvelles libérations, Israël a relâché 369 prisonniers palestiniens, dont une grande partie a été acheminée jusqu'à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. C'est le sixième échange de ce type, alors que la trêve dans l'enclave demeure très fragile. Des libérations d'otages rendues possibles grâce à la position ferme du président Trump à remercier Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, Marco Rubio est arrivé en Israël. Première étape d'une tournée au Moyen-Orient pour le patron de la diplomatie américaine, avec au programme des entretiens prévus avec le Premier ministre israélien avant de se rendre en Arabie Saoudite où il rencontrera des responsables russes et ukrainiens. Marco Rubio qui s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux hommes ont convenu de coopérer sur l'Ukraine, indique le Kremlin. Toujours à l'écoute de RFI, direction la Serbie. Les manifestations anti-corruption quotidiennes dans le pays depuis le drame de l'effondrement de la gare de Novi Sad en novembre dernier. Un mouvement que le pouvoir n'arrive pas à endiguer. Pour le moment, la stratégie est de le laisser s'essouffler, mais les défilés quotidiens dans plus d'une centaine de villes serbes ne désemplissent pas. À l'origine du mouvement, les étudiants, ils ont organisé ce samedi, jour de fête nationale, un nouveau méga rassemblement. Laurent Rouy.
Des dizaines de milliers de Serbes ont fait le déplacement pour ce nouvel opus du mouvement anticorruption qui secoue la Serbie depuis un peu plus de trois mois. À Kragujevac, la quatrième ville du pays, les protestataires ont pris possession du centre-ville dans une atmosphère détendue, mais décidée. Ils veulent que la justice soit faite pour les 15 morts de l'effondrement de la gare de Novi Sad. À lire les banderoles, à entendre les slogans, les manifestants sont très remontés contre le président Aleksandar Vučić qui dirige la Serbie depuis 13 ans et qui pendant toutes ces années a pris de plus en plus de liberté avec les valeurs démocratiques. La Serbie est devenue le deuxième pays le plus corrompu d'Europe, d'après Transparency International. La manifestation organisée par les étudiants, dont beaucoup sont venus à pied à Kragujevac depuis toute la Serbie, est soutenue par les agriculteurs, les enseignants, les avocats et une large base populaire. Les étudiants parviennent peu à peu à avoir accès aux médias d'État, ce qui renforce leur assise. Pour l'instant, Aleksandar Vučić, qui organisait un contre-meeting dans une ville du Nord, n'a pas encore accédé à leurs revendications. Laurent Rouy, Kragujevac, RFI.
L'Autriche sous le choc après une attaque au couteau à Villach, dans le sud du pays. Un homme de 23 ans a attaqué des passants au hasard en plein après-midi, indique la police autrichienne. Un adolescent de 14 ans est décédé, 4 personnes blessées, dont 2 grièvement. Le suspect arrêté est un Syrien demandeur d'asile. Il n'était pas connu des services de police. Ses motivations ne sont pour l'heure pas connues. Tout autre chose à présent. Ce samedi marquait la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques. Chaque année en France, près de 2300 enfants et adolescents en sont atteints. Il y a une semaine, les 15 millions d'euros de budget dédiés à la recherche sur ce cancer avaient été abandonnés. Mais face aux critiques, l'exécutif a fait immédiatement marche arrière. Alors, faut-il sanctuariser cette partie du budget? Comment doit-il être utilisé? Élément de réponse avec Catherine Vergely, secrétaire générale de l'Union des associations de parents d'enfants atteints de cancer ou leucémie.
Il faut structurer ces recherches, c'est-à-dire qu'il faudrait surtout qu'il y ait une vraie stratégie sur les cancers de l'enfant. Et que donc, avec des objectifs précis, on a une enveloppe qui n'est pas finalement trop sanctuarisée parce que du coup, elle pourrait être limitée, mais qu'en fonction des objectifs qui sont dans cette stratégie, on puisse avoir régulièrement une somme qui soit allouée pour développer ce qui est important. Par exemple, il va falloir développer des projets avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir des projets avec des nouvelles thérapies qui sont pour le moment pas accessibles aux enfants. Il faut financer des recherches qui soient complètement destiné aux enfants et non pas de dériver des projets de recherche de l'adulte sur l'enfant. Parce que les sujets sont pas les mêmes, les développements sont pas les mêmes, les tumeurs ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut vraiment avoir une recherche de précision bien centrée sur les cancers de l'enfant.
Un propos recueilli par Marius Roland. Et puis le PSG s'est imposé 1-0 à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Avant cela, les Monégasques ont étrié les Nantais, défait sur le score de 7-1. Même tarif, ou presque, pour les Stéphanois, Troyes qui se sont inclinés à Marseille 5 buts à 1. L'affiche de ce dimanche en Ligue 1, c'est certainement le Stade Rennais qui reçoit Lille, 5e. Coup d'envoi à 19h45, temps universel. D'ici là, il est 3h10 à Paris. Merci à vous d'écouter RFI.